RCF. Bonjour à toutes et à tous. Notre société française est construite autour du double paradoxe. Si tu réussis, tu es suspicieux. Et si tu échoues, tu l'es tout autant, car l'échec comme la réussite font peur. Bref, en France, comme le disait une de mes consoeurs, on est l'élève moyen et fie à celui qui réussit trop bien et trop vite. En effet, nous sommes aujourd'hui des personnes de la norme. La norme est ce qui régule notre vie, notre société. Tentez d'en sortir et gare à vous. On tentera d'écorner votre réputation de femme, d'homme, de parent, d'entrepreneur, d'artiste. Mais Dieu, que parfois il est bon de sortir de la norme, de pouvoir avoir ce sentiment de toute puissance créatrice. La question reste. Que fait-on de cette toute-puissance ? Le bien ou le mal ? Si on regarde les plus grands savants, les plus grands artistes, les plus grands écrivains, beaucoup doivent leur succès à ce changement de normes. Quand le Caravage, par exemple, fait poser des prostituées et travaille sur le clair-obscur, quand des architectes passent du roman au gothique, quand Léonard pense aux hélicoptères et aux parachutes et que la bande à Truffaut révolutionne le cinéma, ou quand un mec venu d'Afrique du Sud décide de construire une voiture électrique autour d'un ordinateur ou tout simplement d'envoyer des fusées dans l'espace capables de revenir sur Terre en se posant verticalement. Ça tombe bien d'ailleurs, il s'agit d'Elon Musk et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi. Aujourd'hui, nous allons évoquer une figure de l'entrepreneuriat mondial, une figure des nouvelles technologies, celui qui voudrait révolutionner la technologie de la voiture, de la fusée et nous emmener tous sur Mars. Il s'agit d'Elon Musk, Elon Musk qui était à Paris cette semaine, juste hier d'ailleurs, pour rencontrer le président Macron et c'est avec un des deux auteurs du livre Elon Musk, l'enquête inédite, réalisée par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, que nous allons essayer de découvrir ce personnage hors norme. D'ici quelques instants, on retrouvera notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Marguerite Luton, lauréate du 5e prix de Pitch Matchurch avec l'application Retreat. Elle nous en dira plus d'ici quelques instants. 7 minutes pour changer le monde. Eh bien, on ira à la découverte d'une autre association, cette fois-ci, qui s'appelle Tom France et qui, début juillet, les 10 et 11 juillet très exactement, lancera un hackathon pour permettre à des handisportifs de pouvoir trouver peut-être des solutions techniques et technologiques à leurs problématiques de sport en vue des JO 2024. Bien sûr, Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Mais je vous l'ai promis, je vous emmène en retreat. Je vous emmène faire une retraite et non pas manifester pour les retraites avec Marguerite Luton, qui est notre invitée écho de cette semaine.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité écho de cette semaine. Il s'agit de Marguerite Luton, cofondatrice de Retreat. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, Marguerite, c'est parce que, on en parlait la semaine dernière avec Pierre Macaire, vous êtes la lauréate de Pitch Matchurch 5, j'arrive à le dire, Pitch Matchurch 5, ce prix qui est remis chaque année à un des représentants de l'écosystème de la Tech Church. On est en plein milieu, tout, ou plutôt à la fin de la grand messe de la technologie Vivatech. Et vous avez donc cofondé Retreat. Retreat, c'est une plateforme de réservation en ligne si on a envie d'aller faire une retraite. Comment est née cette idée, Marguerite Luton ? Comment est née cette idée de rassembler sur une seule application tous ces lieux de retraite ? Et surtout, comment est-ce que personne ne l'avait eu jusqu'avant ?
Alors, cette idée, elle a été pensée par Nicolas Chatin, qui avait fondé Prixm, un média initialement. Et l'idée, c'était de toucher des gens aux périphéries, de leur proposer des expériences, en fait, qui viennent les rejoindre là où ils sont, en trouvant le moyen de faire vivre des expériences ressourçantes, en rendant tout simplement accessibles les portes des abbayes et des monastères en France, puisque c'est des lieux sublimes, en fait, et qui peuvent s'adresser à tout type de public qui propose de vivre de belles expériences. Et on est dans un monde où on est en quête de ressourcement, en quête de sens, de spiritualité. On connaît tous un proche, un ami, un collègue qui cherche un lieu de retraite, de déconnexion. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de Retreat. En quelques mots, c'est un peu le Airbnb des séjours de retraite spirituelle.
Ça a été compliqué de lancer parce qu'on sait bien que le temps monastique et notre temps à nous, la temporalité n'est pas tout à fait la même.
Bah oui, exactement. Alors, donc en fait, c'est pas exactement une application, c'est plus un site internet tout simplement. Et oui, au début, ça a été compliqué de lancer ça, puisqu'il y a aussi eu le facteur Covid, malheureusement, qui s'est invité au début de l'aventure. Donc ça n'a pas été lancé tout de suite, mais maintenant.
Comment vous avez réussi à convaincre les abbayes, parce que là. Les nouvelles technologies et le monde monastique n'est pas forcément lié, même s'il y en a qui aujourd'hui sont très férus et sont peut-être même en pointe parfois sur la gestion de leur monastère. Néanmoins, ça nécessite des apprentissages, une nouvelle manière d'appréhender, sortir du cahier et du crayon de bois pour remplir la liste des hôtes de l'abbaye.
Exactement. Et bien ça, c'est passé par la rencontre tout simplement avec les communautés. Un dialogue constant, on travaille avec des communautés avec qui on communique régulièrement et leur expliquer tout simplement comment ça allait se passer avec notre outil, si elles voulaient le rejoindre. Et en fait, elles étaient totalement libres. On est un service en plus 100% gratuit, on se veut vraiment un service d'église, et ça répondait aussi à un besoin de certaines communautés qui quelquefois accueillent des centaines de personnes à l'année et ont du mal à gérer leur hôtellerie sans des outils un peu digitaux. Et donc l'idée, c'est qu'on leur fait quelque chose sur mesure, et elles sont aussi très contentes de voir un public qui est renouvelé, parce que c'est un site qui leur ramène du monde et des personnes qui sont assez jeunes et qui sont pour beaucoup éloignées de la foi finalement.
Est-ce que c'était aussi un moyen d'aller chercher des abbayes qui finalement avaient peu de retraitants, peut-être parce que peu visibles, évidemment, quand on s'appelle le Mont Saint-Michel, quand on s'appelle Kergonan, l'abbaye de Solesmes ou Sénan, que c'est un peu plus facile que quand on s'appelle le monastère Notre-Dame de la Paix quelque part dans la Sarthe, par exemple.
Bah oui, exactement. Et puis en plus, c'est des lieux qui sont tout autant sublimes. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est des lieux qui ne sont pas loin quelquefois de là où les gens habitent, qui sont peu connus, et donc ça permet de leur donner une visibilité. Et surtout, certes, tout le monde ne veut pas aller au Mont Saint-Michel avec beaucoup de monde, c'est un lieu magnifique de pèlerinage, mais quelquefois, en fait, un Carmel, tout simplement, pas très loin de chez soi, c'est un lieu qui est parfait pour un accueil familial, un dialogue, une oreille attentive, et tout en étant, par exemple, au bord de la mer, comme le Carmel du Havre, finalement. Donc, on a des lieux tout aussi sublimes et à qui on peut donner une bonne visibilité.
Est-ce que ça renouvelle aussi le panel des retraitants ? Est-ce qu'il y a de nouveaux retraitants qui se dessinent grâce à cette application Retreat ? Le recul est peut-être pas encore suffisant, mais peut-être que vous avez quelques pistes déjà.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, on est toujours super heureux avec l'équipe d'avoir les retours des communautés qui nous le témoignent. On a des jeunes, on a beaucoup de jeunes qui passent en abbaye. Alors, les étudiants adorent partir réviser en abbaye maintenant. Hier encore, j'étais à l'abbaye de Limon, juste à côté de Paris.
Pourquoi maintenant ? J'ai révisé mon bac en abbaye.
Voilà. Ben voilà.
Pas que maintenant, on le faisait déjà un peu avant. Mais de fait, c'est vrai que c'est un lieu qui est paisible parce que c'est un lieu déconnectant et déconnecté très souvent.
Exactement. Et surtout après le Covid, les gens demandent à être déconnectés après avoir eu autant de télétravail et parfois d'études sur leurs écrans.
Donc les abbayes, c'est un nouveau lieu pour passer un bon temps de retraite. On la télécharge sur tous les téléphones.
Alors, c'est un site internet, donc vous n'avez même pas besoin de télécharger une application. Il faut juste taper RIT.fr et vous êtes tombé sur le site de Retreat sur l'ordinateur ou le téléphone. Mais c'est tout aussi rapide pour réserver. Vous avez vraiment besoin de 15 secondes, trouver un lieu, envoyer une demande et la communauté vous répond.
Une centaine de lieux, vous espérez en avoir un peu plus prochainement. Vous continuez le développement ?
Oui, exactement. On s'est rendu compte que l'outil qu'on avait développé, le site, pouvait beaucoup parler aussi à des lieux de la francophonie. Donc, que ce soit en Afrique francophone, en Suisse, en Belgique, on a des abbayes qui nous contactent, qui sont intéressées. Donc, c'est... c'est aussi un axe, on s'est rendu compte que c'était un service qu'on pouvait développer un petit peu hors de France.
Dernière question, est-ce que vous avez aussi développé à destination des centres spirituels, vous savez, pouvoir réserver sa retraite, mais cette fois-ci retraite accompagnée, retraite spirituelle, que peuvent faire le Chemin Neuf, les Jésuites et autres congrégations?
Oui, bah exactement, on travaille avec ces communautés, on a des lieux référencés qui sont à ces communautés et on a des retraites événements qui sont organisées par les congrégations ou même par les abbayes et les monastères. Là, à l'approche de l'été, on a des super lieux qui proposent de la permaculture, alliés travail de la terre et quête spirituelle, par exemple. Donc, on a aussi ça proposé sur le site.
Eh ben, c'est totalement l'audace aussi, tout ça, et c'est tout à fait dans l'esprit de l'écho des solutions. Merci beaucoup, Marguerite Luton, d'avoir été notre invitée écho de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors cette semaine, vous souhaitez revenir sur le mot management. Pourquoi ce mot anglais, usé jusqu'à la corde et qui fait l'objet d'une littérature abondante, fait-il encore couler autant d'encre? En quoi peut-il avoir une influence sur les crises du travail dont vous nous parliez dans une de vos précédentes chroniques, Pierre?
Peut-être faut-il d'abord se souvenir, chauvinisme oblige, que le mot à l'origine n'est pas anglais. Le mot de ménagerie, qui a donné celui de management, vient de maison. La maison conçue comme un domaine qu'il convient de bien gérer et qui a la même origine d'ailleurs que les mots grecs oikos et oikia, qui signifient également maison et qui ont donné des termes comme économie et même écologie. En fait, management vient du vieux mot français ménager qui signifie prendre soin d'un être vivant pour qu'il survive et se développe au mieux.
Alors l'étymologie est intéressante, mais que nous dit-elle aujourd'hui, Pierre ?
Simplement que le management ne peut pas être réduit à une boîte à outils de solutions universelles, mais plutôt qu'il est un phénomène dynamique pour s'occuper au mieux des membres d'une organisation. L'objectif, je le crois, d'un manager doit être de prendre soin des personnes qui composent son équipe pour qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions, pour qu'elles grandissent aussi en compétences, tout en restant compatible, évidemment, avec la performance économique attendue.
Alors, si je comprends bien, Pierre, ce que vous voulez dire, c'est que les deux sont intimement liés si on veut atteindre une performance durable.
Oui, exactement. Laurent Capelletti, docteur HDR en sciences de gestion, nous dit même que 1 euro investi en qualité du management en rapporte 4 à l'entreprise. Et il insiste sur le fait que ce mode de management influence les 6 leviers de la satisfaction au travail, ou si vous préférez, de la qualité de vie au travail, la fameuse QVT.
Alors, quels sont ces leviers ?
Je n'ai pas le temps de les développer ici, mais ce dont il faut se souvenir, c'est qu'ils ne doivent pas se limiter à améliorer les conditions de travail ou à mieux concilier les temps de vie professionnelle et personnelle de ses salariés. Entre en jeu la formation et l'évolution professionnelle, la répartition de la valeur, bien sûr, le sens du travail, la communication, la coordination, la concertation, bref, tout ce qui va contribuer à donner aux salariés la possibilité d'agir afin d'améliorer son travail et de faire progresser l'entreprise. Ces domaines doivent être bien sûr passés en revue régulièrement par les managers et les managers, avec évidemment un objectif d'amélioration.
Alors dans un contexte de tension du marché de l'emploi, cela renforce l'attractivité de l'entreprise. Certains parlent même de CV employeur, non ?
Exactement. En fait, on comprend bien que la qualité dégradée du management provoque une insatisfaction sociale chronique. Et à l'inverse, ce sera ma conclusion, l'attention que l'entreprise et ses managers sauront porter à ces questions permettra d'attirer de nouveaux collaborateurs et bien sûr de les fidéliser.
Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous on fait une pause dans l'écho des solutions afin d'ouvrir notre dossier avec Emmanuel Botta, l'un des co-auteurs du livre phare qui sort en plein milieu de Vivatech, qui est une biographie inédite d'Elon Musk. On verra ça avec lui d'ici quelques instants. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve nous la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.
She came to gather all of her personal effects. It seemed a bit too late for goodbye sex. Out the window an engine idled, some guy leaning on the hood. Pretty sure she's gone for good. Love is a yard sale.
strangers wander up on your grass. To hold your future hostage and bargain for your past. But all sales are final, no returns, not that you would. I'm pretty sure she's gone for good.
C'était Yard Sale, Ben Harper et Jack Johnson, issus de la playlist RCF que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Spotify si vous souhaitez retrouver son intégralité. Une balade américaine pour le plus américain des Sud-Africains. Il s'agit d'Elon Musk. Il est notre invité, enfin pas totalement. Il est l'invité du dossier de l'Écho des Solutions via ses biographes. On retrouve tout de suite Emmanuel Botta qui est notre invité du dossier de l'Écho.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'Écho des Solutions cette semaine en plein cœur de l'événement Vivatech. Nous allons évoquer une des figures de l'entrepreneuriat mondial qui en moins de 20 ans a révolutionné le monde de l'espace et de l'automobile et d'autres encore. Je veux bien évidemment parler d'Elon Musk, un homme complexe, complexé, qui se complaît dans la complexité et qui regarde notre monde du dessus tel un dieu contemplant sa création en vue d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, Elon Musk était justement à Paris. Il est allé rencontrer le président Emmanuel Macron pour évoquer implantation d'usines en France et en Europe, IA. L'enfant sud-africain que l'on prenait pour un débile à l'école joue aujourd'hui à la table des États. Comme quoi changer la norme et ne pas être dedans peut être un levier de réussite. Et pour nous accompagner dans la découverte de ce personnage hors norme, eh bien j'ai la joie de recevoir Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital et co-auteur avec Béatrice Mathieu, économiste et grand reporter à l'Express, d'un ouvrage Elon Musk, l'enquête inédite aux éditions Robert Laffont. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer donc ce personnage, hein, que vous avez découvert durant 2 ans avec Béatrice Mathieu. Quand je dis découvert pendant 2 ans, c'est-à-dire vous avez creusé la complexité de ce personnage. Peut-être revenir sur le fait d'actualité. Elon Musk en France avec le président Macron. C'est pas la première fois qu'il se rencontre. Il s'était déjà rencontré en marge de Choose in France au mois de mai. C'est bien pour la France de lier des liens économiques avec Elon Musk.
Bah, potentiellement, oui, ça peut être très très positif parce que on parle d'une gigafactory, donc ces gigantesques usines de fabrication de batteries électriques qui seraient à plusieurs 4 ou 5 milliards. C'est des chiffres qui circulent en ce moment, donc ça veut dire potentiellement plusieurs centaines, si ce n'est milliers d'emplois. On sait que dans le Nord, on a pas mal de 4 gigafactories déjà, donc il y a une sorte de grand cluster qui est en train de se créer. Donc l'arrivée d'une gigafactory Tesla, ça serait une excellente nouvelle économique et sur le plan de l'emploi pour la France, mais c'est pas fait parce qu'il y a une bataille, notamment avec l'Espagne, qui essaye évidemment d'attirer Tesla sur son territoire.
Donc Musk était en France. Musk, c'est un personnage, je le disais à l'instant. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'ouvrage. Complexe, complexé et aimant la complexité.
Oui, complexe, ça c'est une certitude. Hein. Je pense personne ne peut dire. Je pense qu'il connaît vraiment. Qui est Elon Musk et quel est son mode de fonctionnement complexé aussi parce que il a une enfance très très compliquée, des parents qui ont divorcé un divorce assez violent dans une société sud-africaine elle-même très violente, même s'il était dans une classe plutôt privilégiée. Ensuite, effectivement, son autisme Asperger qu'il a lui-même revendiqué il y a pas si longtemps que ça, faisait qu'il y avait une barrière avec les autres élèves, qu'il était totalement incompris, que ses différents professeurs ont fini par convoquer ses parents en lui disant je pense qu'en fait votre enfant est anormal, pour pas dire totalement stupide, et il a rien à faire dans le système scolaire classique. Il était charrié, moqué par les autres élèves. Il a même été tabassé. Enfin, quand on dit tabassé, c'est vraiment il a fait plusieurs jours d'hôpital. Pardon, ça a été très violent. Son père, avec qui on a pu échanger, nous a dit même texto, les autres élèves ont voulu le tuer, quoi. Donc c'était une enfance très très compliquée. Et puis lui, il a un rapport effectivement aux autres. Qui est complexe.
Mais qui est lié au syndrome d'Asperger, bien évidemment. Ça veut dire que pour lui, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une revanche. D'ailleurs, c'est un de vos chapitres. Il prend sa revanche sur tout ça.
Oui, parce que ça a été pendant très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que c'est l'homme le plus riche de la planète. Il est un peu omniprésent, pour ne pas dire parfois limite omniscient. Mais pendant très longtemps, c'était un outsider et personne ne croyait vraiment en lui. Évidemment, quand il était enfant, mais même quand il a monté ses premières entreprises, il a été assez régulièrement débarqué ou mis de côté par les actionnaires parce qu'ils le trouvaient trop borderline, trop limite. Donc, il a été sorti de plusieurs de ses premières entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une grande défiance par rapport au monde de la finance et par rapport aussi au milieu journalistique, parce que de très 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 nombreuses fois, la presse a dit « Ah, c'est la fin », en 2018 par exemple, quand il y avait tous les bugs à répétition sur la Model S, qui est le modèle le plus accessible de Tesla, et qu'on voit aujourd'hui à peu près partout sur les routes. Tout le monde disait « C'est terminé, il n'y arrivera pas, il va se planter, rien ne sortira des usines, c'est la fin de Tesla ». On a dit la même chose avec SpaceX, donc les lanceurs de fusées, ça va se terminer. Et en fait, à chaque fois, il arrive effectivement à remporter le pari qui est à 10 sans contre 1, parce qu'il va quand même dans des domaines extrêmement complexes, extrêmement capitalistiques. Donc il est dans une revanche permanente, une revanche. Alors après, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais on peut imaginer que oui, il y a aussi une sorte de revanche plus globale sur la vie, quoi. Il a été très belle femme, lui, le petit vilain canard, effectivement, incompris, il se retrouve l'homme le plus riche du monde, il est partout sur la planète, il a été élu l'année dernière, en 2021, pardon, homme de l'année par le Times, donc oui, c'est gigantesque.
Et la revanche, et puis il y a aussi, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais finalement en finissant votre ouvrage, on comprend que tout est enraciné aussi, non pas que dans l'enfance, mais aussi dans la généalogie des Musk et de la famille et des grands-parents et des arrière-grands-parents. Ouais. Ils ont tous été hors normes. On a l'impression que la famille, elle a fait de la normalité Finalement, ça a raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être des entreprises, ouais. mais si vous voulez être un Musk, soyez anormal, quoi. Sortez de la norme.
C'est vrai. C'est vrai qu'on voit Musk, on se dit mais qui est ce personnage, qui a bien pu l'engendrer. En fait, quand on a rencontré nous son père et sa mère, qui sont quand même des personnages eux-mêmes, quand on regarde effectivement dans la généalogie, le grand-père était aussi une espèce d'entrepreneur un peu foutraque qui un jour a décidé de partir du Canada avec femme et enfant dans un petit avion pour rejoindre l'Afrique du Sud parce qu'il pensait que c'était une terre de liberté. Il avait aussi lui du mal comme Elon Musk avec tout le carcan des règles, de la morale et des lois, et donc il a eu ça comme une espèce de...
Mais qu'ils sont partis, tels des Indiana Jones, à la chasse au trésor en Afrique du Sud.
Oui, c'est enfin, ça. Avec ses enfants, donc, notamment la mère de Musk, en plein dans la brousse pendant quelques jours, et il disait aux enfants, bah voilà, c'est parti, maintenant il faut chasser, il faut faire un feu, parce qu'on va rester là 4-5 jours avec son petit avion. Donc on est dans les années 50, enfin, faut imaginer un peu ce qu'était l'Afrique du Sud dans les années 50. Donc il a vraiment né, effectivement, c'est ça, dans une famille où la normalité est normale.
La normalité, c'est ça. Et c'est compliqué après de comprendre que le monde ne fonctionne pas comme sa famille. Mais il y a beaucoup de familles, comme ça. Emmanuel Botta, quand on parle d'Elon Musk, pas besoin de lire votre ouvrage, et vous venez de le dire pour dire qu'il était complexe, impulsif. Mais vous avez pu un peu décrypter ce que c'était que la grammaire d'Elon Musk. Comment on fait pour... travailler, collaborer, je ne vais pas dire travailler avec, mais collaborer dans de bonnes conditions avec Elon Musk. Il y a une grammaire à connaître.
Déjà, il faut être un énorme travailleur. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que s'il faut supporter une charge de travail, c'est ce que tous ceux qu'on a rencontrés nous ont dit. C'est la première chose. C'est une charge de travail assez monstrueuse. C'est être aussi effectivement à la fois brillant, pointu, et accepter quelqu'un qui vous remet en cause en permanence parce que par ailleurs lui-même Elon Musk c'est une phrase qui revenait très souvent dans les gens qu'on a pu interviewer, d'une intelligence effrayante, c'est ce que les gens nous ont dit. Donc ça m'avait marqué parce que je me dis, une intelligence effrayante, qu'est-ce que ça peut être? C'est parce que c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir un ingénieur le plus pointu, par exemple sur les fusées SpaceX, qui s'occupe vraiment, c'est très découpé, je sais pas, de peu importe, d'une telle pièce, d'une pièce du moteur, et qui va aller pouvoir le challenger sur des points extrêmement précis parce qu'il connaît tout lui-même de A à Z. Et si vous avez le malheur de pas bien répondre ou d'être à côté de la réponse, bah déjà vous êtes viré, vous pouvez être viré vraiment dans la minute. Enfin, on le raconte dans le livre. Hein. C'est quand vous êtes viré, c'est, il vous dit très clairement, je veux plus jamais te voir. Et deux minutes après, on a un carton et la sécurité qui vous ramène
à votre voiture,
à la porte d'entrée. Donc voilà, lui, il voit les gens en fait comme des outils. Donc il lui faut les meilleurs outils du monde parce qu'il a un très très grand projet qui est la conquête martienne. Mais si l'outil finit par se fatiguer ou être moins efficient, on change d'outil tout simplement. Et comme on en revient effectivement à sa maladie, à son autisme Asperger, fait qu'il n'a pas de capacité d'empathie, il se rend pas compte que humilier les gens devant tout le monde, ça peut être terrible et ça peut être dévastateur. Que les virer du jour au lendemain, c'est des gens qui ont des familles, enfin des choses qui pour nous sont une évidence. Enfin, je veux dire qu'on humilie pas les gens, on les vire pas du jour au lendemain. Pour lui, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est vraiment comme un marteau, un tournevis, il marche plus, j'en prends un autre, quoi. Donc, il faut savoir qu'avec lui, vous allez beaucoup travailler, vous allez pouvoir vous prendre des coups de colère assez monstrueux parce qu'il est très, très colérique quand ça n'avance pas aussi vite
qu'il le souhaiterait.
Et vous pouvez débarquer du jour au lendemain. Mais les gens le savent, hein, pour eux, ils nous parlent souvent ça comme d'une sorte d'expérience commando.
Et c'est quelqu'un qui fascine aussi en même temps, Emmanuel. Il fascine aussi les gens avec qui il travaille et collabore régulièrement, où les gens se fatiguent et partent. Où il y a un côté un peu gourou aussi chez Bonhomme.
Oui, il fascine parce que c'est vrai c'est quand même quelqu'un qui, alors je sais plus qui nous disait, un ingénieur qui nous disait, lui il avait les choix. C'est un ingénieur assez connu à l'époque, entre toutes les GAFAM. Il disait, d'un côté, j'avais des gens qui me proposaient de faire une appli ou un iPhone, et lui, il vous dit, moi, je te propose d'aller conquérir Mars. Forcément, c'est un peu plus enthousiasmant. Et puis, oui, il y a un côté gourou. Nous, on a rencontré des gens, et même des gens qui ont été virés, qui continuent à le vénérer. On a été au Texas aussi pendant une semaine où sa Starbase, donc là où il fait décoller, où il va, il essaye de faire décoller le Starship, qui sera la plus grande fusée du monde, justement, notamment dans sa possibilité de conquête martienne. Et là, il y a des gens qui sont venus habiter à côté parce qu'ils sont persuadés que c'est la dernière étape avant Mars, que c'est là que ça va se passer, et que Musk est une sorte de messie, quoi. Enfin, vraiment. Enfin, on a vu des gens qui sont.
Donc, il y a une dimension messianique chez. Elle vient d'où cette dimension messianique? Messianique. En tout cas, quelle est son obsession pour Mars? Donc, je pense que le syndrome autistique doit jouer pour une part dans cette démarche obsessionnelle. Mais cette rencontre avec Mars, se dire finalement la planète Terre, elle est foutue, oublions-la, allons nous installer ailleurs.
Il y a eu plusieurs étapes. Les premières, effectivement, c'est quand il était jeune, comme il était totalement reclus et rejeté par les autres, du coup, il s'est totalement plongé dans les littératures de science-fiction, donc, et beaucoup notamment... on parle de la trilogie martienne. Alors pour les amateurs de science-fiction, c'est un titre très connu, donc en trois volumes, qui parle effectivement justement de comment aller habiter sur Mars. Et donc ça a été un peu la base. Et ensuite, il y a eu une rencontre qu'on raconte dans le livre avec Robert Bob Dubrin, qui est un ancien ingénieur de la NASA et qui a écrit un livre qui n'est pas du tout connu en France et pas extrêmement connu aux États-Unis, mais très connu dans la communauté scientifique et notamment des ingénieurs. C'est à mi-chemin entre le roman et le mode d'emploi sur comment on fait pour...
Aller à Mars,
c'est aller vivre dessus et faire ce qu'on appelle de la terraformation, c'est-à-dire rendre Mars vivable pour l'homme. Mais vraiment un peu écrit comme un mode d'emploi, quoi. Mmh. Et Musk est tombé là-dessus et c'était comme si tout d'un coup il y avait la réponse à sa question, à la question qu'il avait depuis son enfance, quoi. Et quelqu'un lui expliquait, si en fait c'est possible. Mmh. Et voilà le mode d'emploi ou le GPS pour y aller. Donc il a fini par le rencontrer. Ce Bob Dubrin avait une association, une sorte d'association.
La Mars Society, hein, c'est ça?
Exactement, voilà, où se réunissent très régulièrement des gens très sérieux par ailleurs sur effectivement ce projet d'aller conquérir Mars. Donc il l'a rencontré, c'est devenu une sorte aussi, qu'on raconte un peu, une sorte de père de substitution parce qu'il a des rapports.
Oui, c'est vraiment la question que j'allais vous poser parce qu'il n'y a pas de père, donc il a trouvé un mentor, un père de substitution
c'est ça? Vraiment, quoi. Et c'est, nous on l'a eu plusieurs fois, Robert Dubrin. Et c'est le seul aujourd'hui qui est capable, qui peut lui dire non, parce que le problème, évidemment, c'est pas lié que à Musk, à tous ces gens qui arrivent à des sommités de fortune et de succès, c'est qu'ils sont entourés de yes men, quoi, de gens qui disent tout le temps, c'est très bien, c'est super, c'est bien ce que tu fais. Et lui est le seul, par exemple, à lui avoir dit, quand il a racheté Twitter, il lui a envoyé un message en disant, écoute Elon, là, t'es en train de te perdre, n'oublie pas que ton objectif, c'est Mars, c'est pas Twitter, quoi. Donc c'est devenu une sorte,
La galaxie muskienne, si on peut l'appeler comme ça, la galaxie muskienne, elle est toute orientée vers Mars, hein, que ce soit Tesla, que ce soit la robotique, que ce soit l'IA. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, toutes ces technologies qu'ils développent, ou l'hyperloops, on en parle plus trop, mais je trouvais que c'était une très belle idée, mais l'hyperloops, tout ça, c'est l'idée, c'est de se dire, tout ça, on va pouvoir l'importer sur Mars, le construire sur Mars, pour permettre aux gens de vivre sur Mars, en fait.
Exactement. C'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que l'empire Musk est un peu foutraque et qu'il n'y a pas grand sens dans tout ça, mais en réalité, vraiment, tout s'agence parfaitement. Les fusées, c'est une évidence, c'est pour aller sur Mars, mais effectivement, l'hyperloop, donc c'est ces tunnels dans lesquels on pourrait circuler à plus de 1000 km/h, c'est parce qu'en fait, sur Mars, avec la radiation, c'est impossible de circuler librement, sinon vous avez un cancer en une semaine, si je caricature un petit peu. Les robots, c'est parce qu'il faudra bien construire les bases lunaires. L'IA, c'est pour accompagner l'homme. Neuralink, donc les implants qu'on mettrait dans les cerveaux de l'homme, c'est parce que pour faire face à l'IA, il faut des hommes augmentés. Donc tout ça s'agence. Mais d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a l'influence de la SF, quoi. C'est pas à quel point il y a une vraie influence.
Quelle est la frontière entre l'influence de la science-fiction et la réalité scientifique la volonté entrepreneuriale?
C'est ça. Donc il y a une... Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Donc effectivement, on peut avoir une impression de non-cohérence dans l'ensemble des projets d'Elon Musk, mais en réalité, tout est très très cohérent et le but ultime, vraiment, c'est pas d'être l'homme le plus riche de la planète, ce qu'il est aujourd'hui, avec Bernard Arnault, c'est vraiment de tout faire pour lui, son rêve, en fait, ce qu'il a dit plusieurs fois, moi, ce que je voudrais, c'est aller sur Mars et voir, parfois, il l'a dit plus ou moins, mourir sur Mars, quoi. En tout cas, il espère avoir, avant la fin de sa vie, c'est son grand œuvre à lui, c'est la conquête de Mars.
Alors évidemment, la conquête de Mars, elle est encore complexe, hein, ne serait-ce que... Alors on sait qu'on peut y aller, c'est long d'y aller, donc on lui souhaite. Comment il travaille aussi avec... Alors moi, je reviens sur une... Vous reveniez... Hop là. Comment il travaille ? Il travaille avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs. Il travaille de la même manière qu'avec ses collaborateurs. Il est capable de les balancer si ça va pas
ah
assez
oui,
vite.
Oui, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il va les challenger. Bon, ça, à la limite, c'est logique. Tous les entrepreneurs font comme ça, mais surtout, il est capable de les utiliser jusqu'au moment où en fait, il va s'apercevoir qu'ils sont pas assez bons, pas assez rapides, enfin, ou trop chers. Et très souvent, il va se dire, bah, en fait, on peut faire mieux. Donc, on va le faire en interne. Donc, il est capable, mais de tout faire. Alors que là, pendant très, très longtemps, et c'est encore, même si c'est un peu moins le cas, c'est quand même la dominante dans l'économie étant de se dire, quand on est une super entreprise multinationale, il nous faut des ingénieurs pour inventer des brevets, etc. Mais l'essentiel, bah, du coup, c'est des fournisseurs qui fabriquent pour nous et ensuite, au mieux, on assemble. Je résume, mais c'est à peu près ça. Lui, c'est dit tout le contraire. En fait, c'est dit non, on va tout internaliser, le maximum en tout cas. Par exemple, sur les Tesla, il va jusqu'au qu'à fabriquer les sièges des Tesla. Ça a l'air de rien comme ça, mais personne dans l'automobile aujourd'hui ne fabrique ses propres sièges. C'est un non-sens. Il y a des fabricants pour ça qui le font très bien. Mais c'est parce que, en fait, il se dit pour tout améliorer au maximum, il vaut mieux que je le fasse moi parce que, en gros, moi, je le fais mieux que tout le monde.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il considère qu'il a la maîtrise et que comme il a l'idée, passer de l'idée à la maîtrise est plus facile avec ses collaborateurs et ses usines que d'aller expliquer à une usine comment elle doit... D'ailleurs, voilà. C'est un peu ce que vous dites pour Michelin, hein, où en gros, il lui dit, il les jette parce qu'ils ne peuvent pas répondre à son désir et il va acheter les pneus sur Internet.
Oui. Alors ça, c'est effectivement
des fois, petite anecdote, mais c'est rigolo.
Forcément toujours très cohérente parce que du coup, il va sur Internet acheter des pneus. Le problème, c'est qu'il n'achète pas les bons pneus et du coup, il se retrouve avec des Tesla qui, au bout de un an, ont des pneus complètement lisses. Donc là, il est obligé de faire machine arrière. Ça lui arrive de temps en temps. La réalité parfois le rattrape. Et là, il a été obligé de renégocier avec Michelin pour avoir les propres pneus. Mais effectivement, comme on raconte dans le livre, la première fois, il appelle le patron de Michelin en direct et il dit, je veux ces pneus-là. En gros, ces pneus-là pour demain. J'en veux X milliers, mais sauf que Michelin dit oui, non, ça se passe pas comme ça en fait, on vous connaît pas, ces pneus-là ils sont déjà réservés, et lui raccroche en disant je vais les acheter directement parce que si vous voulez pas me les vendre. Ça c'est aussi un peu le personnage qui a du mal à comprendre qu'on lui résiste et que le monde ne se plie pas toujours en permanence à l'instant où il le souhaite à ses désirs. Donc ça donne des situations un peu ubuesques comme celle effectivement qu'on raconte dans le livre. Avec le patron de Michelin, d'autant qu'à l'époque, Tesla, c'était...
C'est rien.
Autour de 2015-2016, c'était rien, c'était une marque pour happy few, quoi.
Est-ce que Elon Musk accepte l'échec ? Parce que finalement, sa vie entrepreneuriale, on ne va pas parler de la vie ni sentimentale, ni familiale, etc., mais sa vie entrepreneuriale est faite d'une multitude d'échecs, et on a l'impression que l'échec est pour lui un modèle de construction d'entreprise, un modèle économique. C'est par l'échec qu'on réussit.
Oui, complètement. Et effectivement, il dit lui-même d'ailleurs que si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a pas poussé assez loin le test. Et vraiment, quoi, c'est quelque chose qu'il applique et il va jusqu'au bout de son modèle. Et tant que si on veut révolutionner un secteur, il faut pousser les tests au maximum. Et parfois, comme on l'a vu, ça se termine par des explosions de fusées parce que là où tous les autres vont faire des tests sur ordinateur, Ariane, par exemple, etc., Ariane Space, hein, vont tout simuler sur ordinateur et ne feront le test physique, j'allais dire, de la fusée que s'ils sont sûrs à 99,99%. Lui se dit non, on va faire ça, mais en parallèle, on va tester des vraies fusées. Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. De l'échec, on va apprendre des choses que les autres n'ont pas essayé, n'ont pas compris. Ça lui a plutôt réussi parce qu'il a réussi à faire, par exemple, les fusées réutilisables. Et là, il s'apprête, il va y arriver tôt ou tard, à faire revenir la plus grande fusée que la planète ait jamais construite. Donc, mais il faut accepter notamment que des fusées à plusieurs dizaines de millions de dollars explosent. C'est quand même, il faut assumer le risque.
Pouvoir l'assumer surtout.
Et voilà, il faut avoir les finances et donc les investisseurs qui vous suivent derrière pour l'idée de la voiture électrique. Aujourd'hui, ça nous paraît, parce qu'on en voit partout et toutes les marques s'y mettent, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où il a lancé ses premières Tesla, donc on est au tournant des années 2010, personne ne croit aux véhicules électriques. Et ceux qui parlent de véhicules électriques, on vous dit oui, c'est des véhicules qui iront à 45 km/h pour aller dans les villes éventuellement. Mais un bolide électrique à plus de 300 km/h,
c'est pas possible.
Les gens disaient ça n'a aucun sens.
C'est ce qu'on dit d'ailleurs en ce moment pour l'aviation. On dit c'est pas possible.
Exactement.
Mais tout le génie d'Elon Musk, c'est un peu le principe de l'ubérisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont hors secteur industriel qui décident à un moment donné de vouloir toucher ce secteur parce qu'ils ont une volonté d'agir sur la planète, sur le monde pour aller sur Mars. Lui, il prend la méthode inverse. Plutôt que de construire une voiture et d'électrifier, il prend de l'électricité, il prend un ordinateur et il construit une voiture autour. Ouais, c'est ça le principe. On prend le contre-pied de l'existant pour pouvoir créer quelque chose de complètement innovant.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde le suit. Maintenant, tout le monde aujourd'hui copie le modèle Tesla dans le sens, effectivement, ils ont bien compris que maintenant, la voiture du futur très proche, ça serait plutôt, effectivement, un ordinateur avec des roues autour.
Elon Musk a aussi révolutionné le spatial, on l'a dit, avec SpaceX. Mais au-delà de simplement révolutionner la technologie spatiale, de mettre à l'amende Ariane et autres consortiums, il a aussi décomplexé un certain nombre d'entrepreneurs à sortir de la norme, à aller innover aussi, dans le domaine du spatial comme dans le domaine de la voiture d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Effectivement, dans le spatial, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le New Space. Donc, c'est plein de petites startups en France et beaucoup aux États-Unis qui se lancent là-dessus. Il faut bien se rendre compte quand même, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, en gros, avant que SpaceX arrive, le spatial, c'était le domaine réservé des très grandes puissances. Il y avait en gros la Russie, l'Europe et les États-Unis qui avaient des lanceurs. Donc c'était quelque chose de vraiment, c'était des puissances, c'était dans le pouvoir des États. Donc, tout d'un coup, une entreprise privée qui arrive à le faire, mais ça a totalement révolutionné le secteur, et en plus qui arrive à le faire, mais qui en plus supplante tout le monde, parce qu'aujourd'hui, SpaceX est très loin le premier lanceur de fusée au monde. Ils ont ringardisé, parce que c'est le terme Ariane Space, enfin Ariane 5, Ariane 6 n'est pas encore arrivé sur le marché.
Mais elle est déjà obsolète.
Mais qu'elle est déjà quasiment obsolète. Et il n'a pas encore lancé le Starship qui pourrait faire que le prix au kilo, parce que c'est comme ça que ça se calcule pour les lancements notamment de satellites, serait 10 à 20 fois moins élevé. Donc il faut bien se rendre compte de la révolution qu'il a initiée. Et donc il a ouvert la porte effectivement à toute une série de startups aujourd'hui qui arrivent à lever des fonds un peu partout, qui font des projets plus ou moins grands, mais il y a plein de petits projets de mini-lanceurs en Europe, en France, aux États-Unis. Il y a aussi des projets de mini-satellites. Donc il a créé, effectivement, il a ouvert la porte et créé quasiment un nouvel univers qui est notamment porté sur le fait qu'on sait que demain, la nouvelle frontière, ça sera l'espace. Quoi. Il y a eu le Nouveau Monde, le Far West.
Et la conquête des océans au moment des conquistadors, et il y aura l'espace d'ici quelques années.
Aujourd'hui, on est vraiment dans la conquête de l'espace, et quoi qu'il arrive, c'est quand même Elon Musk qui aura ouvert ce champ-là. Quoi.
Est-ce qu'Elon Musk a une conscience écologique, ou alors est-ce qu'il est plutôt à se dire c'est foutu, partons sur Mars et finalement ne nous occupons plus de la Terre?
Alors ça, c'est quelque chose effectivement qui n'est jamais très clair avec lui, parce que il a quand même, on peut se dire qu'il a une conscience écologique parce qu'il a quand même fait des Tesla pour avoir des voitures vertes, même si c'est pas lui qui a inventé Tesla en réalité, il l'a récupéré, mais aujourd'hui
ce sont
c'est
pirates,
le plus grand vendeur de voitures électriques. Donc de fait, il agit quand même très clairement sur le climat, au niveau de la décarbonation. Après, dans le même temps, effectivement, il a quasiment acté que, en fait, la planète était un peu foutue. Quoi. C'est pour ça qu'il veut aussi aller sur Mars. C'est parce que comme il est persuadé qu'en gros, à Terre, à plus ou moins long terme, en tout cas, la planète Terre est condamnée, il faut absolument pouvoir faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Et donc, ça commencera par la conquête de Mars. Et du coup, l'idée, c'est vraiment... Mais un peu comme dans les films. C'est vrai que des fois, quand on enquête sur lui, on a l'impression qu'on enquête, qu'on est sur le projet de quelqu'un, d'un héros de roman. Quoi. Il est vraiment... Il applique ce qu'il a pu lire. Quoi. C'est-à-dire l'homme qui va conquérir plein d'autres planètes parce qu'on ne peut plus vivre sur la planète Terre. C'est la base de plein de romans de SF ou de films de fiction qu'on a pu voir nous-mêmes dans nos enfances, ou encore il y a pas si longtemps que ça. Mais donc du coup, il a une conscience écologique dans le sens où il sait qu'il y a un vrai problème, effectivement, et il agit dessus par la décarbonation, notamment avec les Tesla, mais il est quand même plutôt dans l'étape 2 de se dire bon, malheureusement, le combat
est terminé, allons sur Mars. On arrive au terme de cet échange, Emmanuel. On aurait aimé continuer un peu plus longtemps, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. À l'issue de cette enquête, qu'est-ce que vous gardez d'Elon Musk? De la peur, un vertige, une certitude, un doute?
Moi, ce que je garde comme certitude, c'est ce qu'on partage avec Béatrice Mathieu, donc ma co-auteure, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il va marquer l'histoire. C'est une évidence. Parce que, entre le spatial, la voiture, et il n'a pas fini, Après, ce que ça sera au final en bien et en mal, parce qu'on voit, toutes les dérives sur Twitter, effectivement, le côté un peu complotiste, enfin, le relais, en tout cas, de choses un peu complotistes. Mais en tout cas, voilà, il marquera l'histoire, ça, c'est sûr. Sur le personnage, bon ou méchant, objectivement, je pense qu'à part Elon Musk lui-même, et j'en suis même pas certain que lui-même le sache, c'est très compliqué parce que le risque, c'est la dérive. En fait, il est tellement animé, aimanté par son rêve de conquête martienne que parfois il se rend plus compte, en fait, que tous les moyens sont pas toujours bons, quoi, pour arriver à ses buts. Donc, il peut peut-être, effectivement, c'est les risques de la dérive, mais en même temps, il y a quand même un cadre légal. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, c'est pas le Far West, quoi. Il y a un moment ou un autre, si ça va trop loin, on peut espérer qu'il soit rappelé à l'ordre.
Et qu'il soit régulé.
En Europe. Voilà, que ce soit régulé.
Merci beaucoup, Emmanuel. On dit souvent qu'il y a des personnes qu'on aimerait rencontrer. Vous aimeriez avoir juste un tête-à-tête, un dîner, sans forcément faire un article derrière pour connaître un peu Elon Musk ou pas?
Oui, bah oui, évidemment. Évidemment. Après avoir tant enquêté sur lui, et passé tant de week-ends à écrire sur lui, un dîner avec lui pour avoir quelques petites questions, j'aimerais bien.
On lui passe le message. Merci beaucoup Emmanuel Botta d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous venez de sortir chez Robert Laffont, Elon Musk, l'enquête inédite, avec votre consoeur Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Nous on continue tout de suite notre émission et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique écho.
Maxime Dupont.
Et comme chaque semaine, c'est le grand retour de Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Et aujourd'hui Maxime, on évoque l'évolution de la population mondiale.
Oui Patrick, parce que The Economist s'est intéressé à cette évolution qui est en fait une information très structurante pour l'avenir de notre monde, puisque après près de 3 siècles de croissance ininterrompue, favorisée par les énormes progrès de la santé, la population mondiale pourrait diminuer avant la fin de notre siècle.
Et comment explique-t-on cela Maxime ?
Eh bien, par un effondrement du taux de fécondité qui est passé en 20 ans de 2,7 naissances par femme à 2,3, se rapprochant dangereusement du seuil de renouvellement de 2,1. Conséquence, les populations vieillissent dans toutes les plus grandes économies, ou presque, y compris, et c'est assez nouveau, en Inde et en Chine, ou dans des pays dits émergents en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Résultat, en dehors de l'Afrique, la population devrait atteindre un pic dès 2050, et en 2050, le monde développé ne comptera plus que 2 personnes âgées de 20 à 64 ans pour chaque personne de plus de 65 ans, contre 3 aujourd'hui. La situation évolue donc à une vitesse vertigineuse.
Et alors, comment on accueille cette nouvelle, Maxime ?
Eh bien, elle est compliquée à interpréter. D'un côté, on connaît le poids que la population fait peser sur les ressources de la planète qu'elle est en train d'épuiser à un rythme toujours grandissant, avec une journée du dépassement, le jour de l'année où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an, qui ne cesse d'avancer. L'an dernier, ce jour du dépassement était le 22 juillet. Une population moins nombreuse est à cet égard une bonne nouvelle.
Et si on prend cela sous un autre angle, qu'est-ce que cela donne, Maxime ?
Eh bien, ça pose d'autres problèmes macroéconomiques. D'abord, le financement d'une société dont de plus en plus de membres seront à la retraite ne pourra se faire qu'à partir de départs différés à la retraite, d'impôts supplémentaires, d'épargne à moindre rendement et donc de mise sous pression des gouvernements pour faire tourner cette équation globale. Et puis ensuite, une société vieillissante est naturellement moins portée à l'innovation parce que moins nombreuse en jeunes entrepreneurs, plus adverse au risque, plus sclérosée par le poids électoral des plus âgés. Conséquence, moins de création de solutions, moins de création de valeur et donc un renforcement des problèmes de répartition de valeur que je citais plus tôt.
Alors bien sûr, on a aussi la robotique et l'intelligence artificielle, mais quelles sont les solutions qui se présentent ?
Alors difficile à dire, le recours à l'immigration dans les pays développés en est une, mais elle n'est que transitoire puisque les plus jeunes qui quittent les pays en développement pour renforcer les économies développées vont diminuer dans le monde un peu partout et donc le manque de ces jeunes travailleurs sera bientôt un problème mondial. On peut penser aux politiques natalistes, alors elles ont du mal à prouver leurs résultats et d'ailleurs les gens n'en veulent guère. Il y a un lien historique incontestable entre développement économique, moins grand nombre d'enfants et meilleur équilibre de vie personnelle et familiale. Et c'est donc, vous aviez raison, du côté assez inattendu de la technologie qu'il faudrait regarder. Une utilisation puissante de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, pourrait être un petit motif d'espoir. En prenant en charge tout un nombre d'activités, celle-ci pourrait libérer l'humanité de toute une partie de la charge productive apportée et donc garantir une forme de rééquilibrage entre les machines et les humains pour permettre de soutenir une économie dynamique, espérons-le, plus verte parce que plus optimisée, et donc un financement de nos sociétés vieillissantes.
Merci beaucoup Maxime pour cette nouvelle chronique. Nous, on continue tout de suite notre émission avec les 7 minutes pour changer le monde et nous retrouvons tout de suite Alexandra Chocron qui est la présidente cofondatrice de Tom France qui s'est engagée dans un hackathon les 10 et 11 juillet prochains pour permettre à nos handisportifs en marche vers les JO de pouvoir améliorer leur technologie. On va voir ça d'ici quelques instants avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Je suis avec Claire Chocron, présidente cofondatrice de Tom France. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de Tom France et particulièrement de ce rendez-vous qui va avoir lieu les 10 et 11 juillet prochains à Ground Control, c'est ça, hein?
Ouais.
Et qui est un hackathon qui va permettre peut-être à des handisportifs de pouvoir bénéficier de nouvelles technologies pour performer. Racontez-nous un petit peu, d'abord peut-être nous présenter un petit peu Tom France. C'est quoi l'idée de départ de Tom France, Claire?
Alors Tom France, c'est une association à but non lucratif. Tom, c'est Tikkun Olam Makers. Mm-hmm. Tikkun Olam, c'est un concept biblique qui veut dire réparation du monde. Mm-hmm. Et Makers, ça fait référence à la révolution du do-it-yourself. On n'attend plus du marché ou du gouvernement qu'il apporte des solutions. On va voir son voisin. On prend du matériel de bricolage et ensemble, on construit des solutions.
Mm-hmm.
Voilà, donc l'association Tom France, elle reprend ce concept de Tikkun Olam Makers, qui est un concept mondial. En fait, il y a des communautés Tom dans le monde entier. Et on organise des hackathons en France.
Alors, votre travail, c'est uniquement d'organiser des hackathons ou entre-temps, vous faites d'autres choses chez Tom, Claire?
Alors, c'est pas mon travail. Si ça l'était, j'aurais plus de temps pour faire
c'est
autre chose. Mais en fait, non. Donc, on est tous bénévoles dans l'association. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on organise des hackathons. De hackathon en hackathon, il y a des makers qui viennent, qui reviennent. Les porteurs de projets aussi viennent et reviennent. Donc, en fait, la vision à moyen terme, c'est vraiment de construire une communauté.
Vous en faites combien par an à peu près de hackathons?
On fait un hackathon par an, mais c'est des gros événements.
Ouais.
On est sur des événements à 100-200 personnes, des défis qui sont très hauts techniquement. Et on fait appel aux employés des entreprises de la tech française pour venir. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas en faire non plus.
On ne peut pas en faire éternellement. Hackathon, on va peut-être redonner un petit peu la définition. C'est un peu comme un marathon, mais de la tech.
C'est
hack,
ça.
C'est parce qu'au départ, on parle de hacking, c'est-à-dire on va aller attraper une technologie pour la tordre et en faire autre chose. Et l'idée, c'est comme un marathon, on va faire de la tech sur une idée. En fait, on prend une idée et on la tord dans tous les sens pour en sortir une idée finale?
Bah ouais, vous avez très bien décrit.
Bah, écoutez, voilà. On va s'arrêter alors ici.
C'est vraiment un marathon. Non, mais en fait, l'idée du hackathon, c'est un événement qui est né dans le monde de la tech. Et Tom France, c'est la tech au service du handicap, le handicap moteur d'innovation. Donc c'est vraiment la croisée entre le monde de la tech et le monde du handicap. Et donc on a repris ce concept du monde de la tech pour le Tom France. Il y a plein de vertus au hackathon, notamment que en fait on va travailler à fond sur un sujet pendant 48 heures. Et donc en fait il y a une émulation, une ambiance très festive mais en même temps très studieuse. Les gens vivent ensemble vraiment pendant 48 heures, donc ils apprennent à se connaître, ils créent des liens, et tout ça fait que à la fin du hackathon, déjà les gens ont des souvenirs extraordinaires en tête, et ensuite on espère que il y a peut-être des gens qui vont se dire tu sais quoi, ce projet là j'ai envie de continuer, j'ai envie de l'amener plus loin. Peut-être qu'on va monter une boîte, peut-être qu'on va se revoir tous les dimanches dans notre garage pour améliorer encore le prototype qui est sorti de cette aventure.
Donc rugby, football, basketball, équitation, danse, ce sont les cinq sports qui vont être mis à l'honneur durant ce hackathon. Les chefs de projet, enfin les projets qui arrivent jusqu'à vous, là vous avez fait le choix des JO. Comment ça s'est passé? Bon, on voit bien il y a Riyad Salem qui est dans le dispositif. On sait combien il est attaché justement à cette question du handisport qu'il porte d'ailleurs pour ces JO. C'est lui qui est venu vous voir et qui vous a dit il faut qu'on fasse un hackathon autour du handisport.
Alors, Riyad, c'est vraiment nous qui sommes allés le voir, et c'est vrai qu'en effet, c'est tellement une grande figure du handisport que c'est un super honneur pour nous de l'avoir avec nous, et encore plus en porteur de projet. Et puis son projet absolument passionnant. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. En fait, Tom France au début, le premier hackathon qu'on a fait l'an dernier, c'était pas à thème. C'est vraiment l'idée, c'est juste de répondre à un défi précis, concret dans le quotidien d'une personne qui a un handicap. Donc ça convient à absolument tous les thèmes. Mmh. Or, c'est vrai que là, en préparation au JO 2024, on avait pas mal de gens qui nous parlaient de défis sportifs. On s'est dit que ce serait sympa d'ajouter un thème et que ça apporterait.
Donc là, c'est la première fois que vous avez un hackathon thématique autour d'un seul sujet le déployant sur 5 sports différents, en fait.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Ça va être 200 personnes qui vont arriver. Comment ça se passe un hackathon? Elles n'arrivent pas sans se connaître, à proprement parler, tout de suite.
Donc c'est vrai qu'on n'a que 48 heures pour le hackathon. Donc il faut absolument que les personnes se connaissent auparavant, en amont, pour que le travail soit très efficace.
Parce qu'elles
ne
se connaissent pas à la base, en fait. Ce n'est pas des équipes d'une entreprise qui dit on part à 5, on va faire un hackathon, non?
Alors, tout à fait. Donc il y a des entreprises qui nous envoient des équipes, mais nous, on va prendre les personnes en fonction de leurs compétences et on va les attribuer aux équipes qui nous semblent les plus pertinentes pour que leurs compétences soient vraiment le mieux utilisées. Donc les personnes ne se connaissent pas.
Je vous coupe. Les personnes ne se connaissent pas, mais ça veut dire qu'il y a des compétences qui viennent de tous les secteurs d'activité. On peut avoir une personne du marketing, une personne de la tech, une personne du dev, une personne qui est en situation de handicap, etc.
Tout à fait. Une équipe, c'est un porteur de projet qui a un handicap et qui a identifié un défi pratique, concret dans son quotidien, en l'occurrence dans sa pratique sportive, par exemple. Et 5 ou 6 makers autour de lui. Et les makers, ça va être des designers, des développeurs, des ingénieurs, des bricoleurs du dimanche, des mécaniciens. Et donc, en fonction du défi, c'est notre job à nous, Tom France, et en l'occurrence celui de ma cofondatrice Laura, qui a cette vision tech-là, cette vision technique de dire, pour ce défi-là, je pense qu'on aura besoin d'un mécano, d'un bricoleur, de 2 designers et de 3 devs.
C'est plutôt des équipes jeunes ou on peut trouver toutes les générations dans une équipe de hackathon ou ça reste quand même des 25, 35, allez peut-être jusqu'à 40?
On a vraiment tous les âges. Là, on aura un maker de 72 ans, donc je suis vraiment contente.
Très bien, super.
C'est vrai que c'est... c'est quand même assez jeune dans la mesure où on va... Les makers, on va aller chercher dans les boîtes de la tech française.
Et donc la moyenne d'âge est forcément forcément plus jeune. Il y a des espérances sur ce... Parce qu'on sait, les JO 2024, ils arrivent vite. Il y a des espérances, il y a des envies d'aboutissement. Vous disiez au début, à la fin du hackathon, il y a des choses, il y a des briques, mais finalement, rien. Voilà, en 48 heures, on ne crée pas une application, on ne crée pas de l'innovation. On peut créer une idée, mais on peut peut-être pas créer de l'innovation. Est-ce que là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir proposer quelque chose de concret d'ici un an?
Alors, tout de même, on crée de l'innovation. En 48 heures, c'est 48 heures très riches. L'an dernier, pour vous donner un exemple, sur 10 projets, il y en a 7 qui étaient finalisés à la fin du hackathon. Donc, c'est vrai que les prototypes les plus avancés techniquement, eux, ne seront pas finis. Et par exemple, l'an dernier, il y a l'école Léonard de Vinci, qui est une école d'ingénieurs, qui a repris un défi à la fin du hackathon et qui l'a continué toute l'année avec une équipe d'étudiants pour mener le projet à bien. Cette année, en fait, c'est très difficile de dire quel défi ira au bout, quel défi n'ira pas. Donc on verra,
c'est partie du jeu du hackathon. C'est ouvert au public, on peut venir, on peut passer pendant ces 2 jours ou est-ce que... Allez, pour que les esprits se concentrent, ils restent entre eux.
Alors, ils restent entre eux, en effet, pour que les esprits se concentrent pendant les 2 journées.
Mais il y a un final.
Il y a une soirée de clôture le 11 juillet au soir. Donc si vous voulez participer, si vous voulez venir voir en fait les équipes présenter les prototypes finalisés,
on s'inscrit sur Tom France.
TomFrance.fr, ouais, c'est ça, il faut s'inscrire en revanche.
Merci beaucoup Claire Chocron d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous on va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine bien évidemment entre 12h et 13h sur RCF. D'ici là vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur RCF.fr bien évidemment, mais aussi les autres plateformes que vous aimez tant. Vous êtes nombreux à vous abonner, si vous aimez cette émission n'hésitez pas à la partager autour de vous. Plus on est à écouter, mieux c'est pour faire avancer la chose, le monde, l'économie et la planète. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt, au revoir.